C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique. Votre émission qui analyse les mots, les discours et leur impact sur notre vivre ensemble. Je m'appelle Polly Mouzalia et comme d'habitude, Babel Mpongo est à mes côtés. Bonjour Babel.
Bonjour Polly, bonjour à toutes et à tous. Alors que le conflit dans l'est de la RDC s'enlise, le langage politique et populaire tend à se radicaliser avec des postures manichéennes sans nuance. De plus en plus, on voit fleurir dans le débat public l'usage de termes comme traître ou complice, des mots lourds de sens qui divisent et polarisent.
Effectivement, Babel, ces mots qui possèdent des définitions juridiques précises sont aujourd'hui utilisés bien au-delà de leur cadre légal. Dans les médias, sur les réseaux sociaux et même dans les discours politiques, ils sont devenus des sortes d'armes rhétoriques, souvent utilisées sans preuve tangible, Babel.
À titre d'exemple, Paulé, les personnes vivant dans les zones sous occupation rebelle sont parfois accusées indistinctement d'être des complices de ce groupe armé. Et certes, il y en a qui ont effectivement choisi de soutenir la rébellion, mais cela ne concerne pas l'ensemble de la population.
Alors, comment analyser cette tendance à désigner des traîtres, entre guillemets, ou des complices en période de crise ou de conflit? Quelles en sont les conséquences et surtout, comment le recours à ces termes influence le débat public? Voilà autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre tout au long de cette émission.
Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir deux invités. Le premier est Alain-Joseph Lomanja, docteur en éthique sociale. Bonjour Alain-Joseph Lomanja.
Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Avec nous également Jean-Luc Mburanoumoué, il est juriste, avocat basé à Kinshasa. Bonjour Jean-Luc et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Polly, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch. Cette scène se déroule dans un campus où des étudiants essaient de mobiliser leurs camarades pour organiser une manifestation. Mais très vite, les accusations de trahison et de traîtrise fusent et les tensions montent. On écoute.
Ma promesse, pas le bal. Oh, tout ça, tout ça, bon, ça les
loue.
Comment il est loue? Il est loue et ça les loue.
Oh, loue. Mais sérieux,
qu'est-ce qui se passe encore?
Vous faites quoi encore ici, les gars?
On fait quoi encore?
Nous sommes tous dehors là-bas.
Et alors?
Allez rejoindre le mouvement. Oui, vous trouvez ça normal ici?
Oh, tu as encore un problème du coup? Oui, je veux combattre. Il y a un souci?
Oui, un gros souci.
Oh,
un gros souci même. Il y a une grosse manifestation qui bouge tous les campus. Et vous, les peinards, vive mon école à tout ça là, vous êtes là.
Ah bon? Mais depuis quand c'est obligé qu'on aille participer à cette marche? Parce que c'est vous qui l'avez
depuis
décidé.
Depuis non mais attends, frérot. C'est un truc qui nous concerne tous. Les campus sont dehors pour dégager ces communautés. Les étudiants qui ne servent à rien.
Non.
Que du blabla, c'est zéro.
Amani, lâchez-nous. On révise nos examens là, s'il vous plaît. On n'a pas le temps pour vos bêtises.
Ah ouais?
On n'a pas ce temps-là, pardon.
Ah ouais. Laissez-moi. Donc, tranquille. Vous montrez clairement que vous êtes en mode pote avec ces charognards qui pensent à leur gueule en laissant le campus crever, c'est ça?
Attends, s'il te plaît. Amani, on n'a donc plus la liberté de faire le choix.
Mais écoutez. Si vous ne participez pas à la marche avec nous,
quoi?
C'est que vous êtes du mauvais côté.
Là, tu es
malade.
Oui, c'est ça.
Tu es malade.
Vous êtes complice avec les pires. Juste parce que vous gardez vos privilèges, une petite place au soleil.
On s'en fout. On ne bouge pas d'ici. Écoutez, on est là, on reste ici.
Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. C'est clair.
Salut les traîtres.
Quoi?
Salut les traîtres du campus.
Traîtres? Non, mais tu t'entends parler.
Non, mais je vous ai
normal. Tu t'entends parler.
C'est ça.
Si vous ne participez pas à la marche avec nous, c'est que vous êtes du mauvais côté. Vous êtes des complices, martèle l'un des étudiants. Les termes traîtres et complices sont souvent utilisés par les hommes de droit. Alors, Maître Jean-Luc Mburanoumoué, comment définir ces deux concepts d'un point de vue juridique, mais aussi comment sont-ils compris par le public en général?
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que ces deux concepts, ces deux mots, sont des mots français, mais dont la signification est très restreinte en droit. Donc, la tendance actuelle est de les utiliser en français qu'en droit. Or, le législateur, dans sa sagesse, a bien spécifié, a bien précisé la définition de ces mots. La trahison, par exemple, en droit, précise le code pénal, c'est le fait de prendre les armes contre la République. Pour un Congolais, de prendre les armes contre la République. Tandis que la complicité, c'est le fait de participer, d'apporter son soutien, une aide à la commission d'une infraction. Donc, pour qu'on soit complice, il faut avoir apporté un soutien à la commission d'une infraction. On n'est pas complice juste parce qu'on a pris un engagement, une décision qui va à l'encontre de la position de la majorité.
Alors justement, dans la situation actuelle, comment ces deux concepts sont-ils compris par le public en général et utilisés notamment dans les débats publics sur les réseaux sociaux?
Justement, comme je l'ai dit, souvent ils sont employés en sociologie et non en droit. Donc on utilise le sens large de ces deux mots et on les qualifie, on attribue aux gens ces qualificatifs sur base justement du français et non du droit.
Merci pour ces explications, Maître Jean-Luc Mburanoumoué. Alain Joseph Lomanja, je me tourne à présent vers vous. Est-ce qu'on peut dire qu'une situation de guerre, comme c'est le cas actuellement dans l'est de notre pays, implique nécessairement le recours à une rhétorique spécifique binaire qui identifie d'une part des ennemis et des traîtres et de l'autre des patriotes?
Non, je pense qu'on ne peut pas rattacher cela d'abord à la guerre. Il faut observer la situation sociopolitique du pays depuis plusieurs années pour se rendre compte que le phénomène de la polarisation a existé bien avant le début de la guerre actuelle. C'est un phénomène social et politique qui peut avoir plusieurs formes. La première des formes de polarisation que nous vivons dans la société congolaise, c'est cette polarisation politique qui s'exprime par des opinions divergentes et que l'on considère comme irréconciliables. Et donc, quand on pousse la polarisation politique à l'extrême, on a tendance à n'admettre aucun compromis politique et on a tendance à croire que c'est seules les opinions de son camp représentent les valeurs républicaines, alors que toute opinion divergente est considérée comme de la trahison ou comme de la traîtrise. Donc il y a ce phénomène de la polarisation politique, mais il y a aussi la polarisation sociale. Si vous regardez bien, depuis les élections très contestées de 2018, on a assisté à l'émergence d'une forme de tribalisme décomplexé. Ça veut dire que on considère les divisions apparaissent sur la base des origines, sur la base des identités tribales, ethniques ou sur la base des considérations religieuses, et on va se diviser sur ce point-là et on va considérer les gens de l'autre camp comme étant des ennemis, des adversaires, et donc on va chercher à les éliminer ou du moins à s'éloigner d'eux en les stigmatisant. Mais il y a une troisième forme de polarisation, c'est la polarisation affective. Et c'est comme une sorte de cristallisation émotionnelle des polarisations sociales et politiques où on a des sentiments affectifs positifs envers les gens qui représentent nos opinions, qui défendent les mêmes points de vue que nous, tandis qu'on va nourrir des sentiments de haine ou de ressentiment contre les gens qui ne défendent pas les mêmes positions que nous. Je voudrais peut-être souligner un autre facteur très important qu'il ne faut pas négliger dans ce débat, c'est le facteur d'enfermement algorithmique des gens qui sont connectés aux réseaux sociaux. Quand vous êtes dans un réseau social, vous aurez tendance à lire le plus souvent les points de vue des personnes qui défendent croyez vous-même. Oui, et donc ça va être une forme de radicalisation du biais de confirmation. Et si vous associez ce phénomène de la polarisation et de l'enfermement algorithmique, ça nous donne ce que nous sommes en train de vivre dans la société congolaise actuellement. Donc alors, je pense que au-delà de la guerre et même avant la guerre, il y avait déjà cette polarisation qui explique ce que nous observons.
Vous le disiez, hein, ces termes traître ou encore complice sont souvent chargés d'émotions. Alors comment expliquer le fait qu'on y recourt davantage en période de crise ou de conflit, comme c'est le cas actuellement?
Bon, en fait, déjà, il y a un problème, c'est que les crises sont souvent basées sur des considérations d'ordre émotionnel, comme vous l'avez dit. Et donc, ces crises-là, c'est des crises souvent liées aux questions électorales, aux questions politiques, aux questions identitaires. Et toutes ces questions-là, comme nous l'avons toujours dit, sont des questions très mobilisatrices. Donc, le langage qui est utilisé en ce moment-là, c'est « nous contre les autres ». Et on a tendance que chaque crise représente un danger de mort, et nous devons nous protéger contre les adversaires qui sont ceux qui ne défendent pas les mêmes points de vue que nous. Alors, on va assister à une forme de... j'envisage déjà les conséquences de cette situation-là. C'est une forme d'élimination symbolique de l'adversaire. Élimination physique... Élimination symbolique. Élimination physique. On a vu par exemple un député assassiné en pleine ville de Kinshasa parce qu'il ne partageait pas les mêmes opinions que d'autres. Élimination symbolique, si vous regardez la pluie des condamnations à mort prononcées par notre justice depuis un certain temps, le langage qu'on envoie aux autres, c'est pour dire soit vous êtes avec nous, soit vous n'avez pas droit à l'existence.
Merci pour ces éclairages, Alain-Joseph Lumanja. Écoutons à présent un deuxième extrait de notre sketch radiophonique. Cette fois, la discussion entre les étudiants prend une tournure plus sérieuse avec des menaces de plus en plus soutenues. On écoute.
Jean, tu m'as pas entendu quand j'ai dit.
Mouta, tu débats oui. Et tu nous traites directement de
vrai. Moi, j'étais vraiment.
Mouta, où est-ce que tu
es? Mouta, où est-ce que tu es? C'est normal. C'est une insultation.
C'est grave, ça. Mais regarde. Nous, on ne veut pas nous engager politiquement. On est là pour bosser en tant que des étudiants.
C'est ça.
Et pour ça, on devient des traîtres.
Mais attends,
on veut pas.
Regardez, vous montrez juste que vous roulez avec le camp des ennemis du campus.
C'est clair.
Oui, vous êtes complice du bazar. Il faut l'avouer.
Attends, tu vois? Tu vois?
Ton attitude, c'est carrément celle d'un vrai complice de ce comité de vautours. Et sérieusement, hein? Ça étonne personne. Parce que le masque des hypocrites finit toujours par tomber.
Ouais, ouais.
Il n'en est pas hypocrite.
C'est ça. Plutôt, oui. Ce qui est sûr, c'est que Kitoko a longtemps mangé en douce avec les démons.
C'est ça, en fait.
Maintenant qu'il voit que la manif qu'on a lancé ses coups, leur masque commence à s'effissurer.
Franchement, c'est la honte. C'est la honte pour eux.
N'importe quoi.
La vraie face de leur trahison est en train de sortir.
Écoutez, on ne va pas vous lâcher.
On ne va pas vous lâcher.
Ces comités pourris devraient dégager avec leurs complices.
Et un plus vite, hein.
Les gens comme Kitoko et Mouille.
On vous regarde.
On va pas dégager.
Attends.
C'est quoi ces vacarmes là? Vous entendez?
Quoi?
On dirait qu'il y a un problème.
Attends, c'est quoi ces bruits?
Et puis ils ont eu un cas comme un
c'est fort. Mais c'est quoi ça?
Attends, j'ai pas d'avoir vérifié.
Mais attends,
ça
fait mal.
Oh là là, Seigneur!
Attends, c'est quoi ça?
Ton attitude, c'est carrément celle d'un vrai complice de ce comité de vautours, accuse l'un des personnages. Cet extrait montre bien combien et comment ces accusations de traîtrise ou de complicité avec l'ennemi peuvent rapidement dégénérer en menaces. Maître Jean-Luc Mbouranoumoué, dans le contexte actuel où les tensions sont déjà très vives, quels sont les dangers et les implications juridiques de l'utilisation abusive des termes traître et complice, maître?
Alors, comme je l'ai dit, le mot traître est pris en droit. Alors, quand on étiquette quelqu'un qu'il est traître, à part le fait qu'il court le risque de se faire lyncher, d'être victime d'une justice privée, c'est qu'il peut faire l'objet des poursuites judiciaires. Des poursuites qui peuvent prendre 2, 3, voire une année pour aboutir à la vérité, qui peut être l'acquittement, mais malheureusement, on va passer assez de temps en détention. Et donc, des conséquences sont dangereuses et raison pour laquelle on doit vraiment faire... On doit avoir beaucoup de retenue avant de qualifier les gens des traîtres ou des complices de certains actes, parce que ce sont des termes qui sont pris en compte par les droits.
Merci Maître Jean-Luc pour ces explications. Je me retourne vers vous Alain-Joseph Lomanja. Peut-on dire que de telles accusations, lorsqu'elles sont portées sans preuve, constituent une forme de diffamation ou même d'incitation à la violence? Si oui, dans quelle mesure peuvent-elles être dangereuses lorsqu'elles sont formulées contre des groupes d'individus ou des communautés entières, Alain-Joseph Lomanja?
Alors, tout à l'heure, Maître qui participe au débat a déjà souligné les conséquences lourdes que cela peut avoir sur les plans juridiques. On peut connaître des poursuites judiciaires et nous savons, c'est mon opinion, nous savons que jusqu'à présent, notre justice n'est pas suffisamment indépendante pour qu'on espère bénéficier d'une justice équitable quand on est déjà traduit en justice. Mais sur le plan social, c'est encore plus grave parce qu'on a vu, par exemple, que l'une des conséquences du phénomène de la polarisation, c'est un recul démocratique. Le débat public n'existe plus. Nous sommes dans une forme de violence verbale, violence physique, où la violence a remplacé le débat d'idées. Ce qui fait que, à cause d'un point de vue qu'on peut exprimer, que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans les médias, à cause d'un point de vue, on court le risque d'être attaqué, d'avoir son domicile incendié ou d'être brûlé ou je ne sais pas, voir son véhicule caillassé quelque part. Donc il y a des conséquences assez graves sur tous les plans. Donc je pense que c'est un facteur, un phénomène qui est très inquiétant, mais dont les autorités ne prennent pas encore la mesure de la gravité. Ce qui fait que nous ne pouvons pas en même temps prétendre travailler pour la cohésion sociale, mais entretenir des groupes d'opinion, des groupes radicalisés qui détruisent la cohésion sociale. Et qui ne permet. Regardez ce qui se passe. Si vous osez, par exemple, remettre en cause la gouvernance du pays, à cause de la polarisation affective, on va dire que vous êtes contre les autorités, que vous avez de la haine ou de la jalousie. Vous voyez les considérations qui rentrent maintenant dans les débats publics. À partir de ce moment-là, on va vous raccrocher comme à la personne que vous avez critiquée. Vous serez son ennemi. Et qu'est-ce qu'on fait des ennemis? On sait ce qui se passe dans nos sociétés où la justice ne fonctionne pas bien et où l'État est défaillant. C'est des risques d'être agressé ou même d'être torturé et tué. Donc je pense qu'il y a des dangers énormes à vouloir tolérer ce phénomène-là et à ne rien faire. Et je crois que les autorités sont responsables de ce phénomène dans la société.
Merci, Monsieur Lomanja. Avant de conclure, écoutons un dernier extrait de notre sketch. Cette fois, les étudiants réalisent les dangers de leur rhétorique, accusant leurs camarades de traîtrise ou de complicité. Ils commencent à envisager une autre manière de communiquer.
Mon Dieu, c'est quoi ce délire? Comment ils peuvent nous faire ça? Mais maintenant, je ne vois pas, Tiran.
Regarde, tous nos trucs dans nos chambres ont été saccagés par le manifestant. Juste parce que vous nous accusez d'être complices du comité. Non!
Ça, c'est quelle méchanceté!
Non, on n'est pas complices.
Ça, c'est quelle méchanceté! Ils ont tout pris, ils ont tout détruit. J'ai même peur qu'ils viennent nous attaquer directement ici.
Les gars,
on est vraiment désolé.
Désolé. Non mais Amani, désolé. Tout ça c'est à cause de vos baratins, oui. Désolé.
Vous n'avez pas arrêté de nous appeler injustement des complices, des traîtres. Et voilà maintenant les résultats. On vient de tout perdre.
Les gars,
on ignorait que ça pouvait déraper. On ignorait que ça allait arriver à ce niveau ici.
Je ne savais pas. Mouta, tu sais, on aurait dû se rappeler que tout ce qui se passe au campus, chacun a sa lecture des choses et peut choisir son camp. Mais si on se met à appeler les autres traîtres ou complices, là.
Mais ce genre de langage de complicité fait juste monter la méfiance et fout encore plus de division entre nous.
Ouais, du coup, ça bloque grave pour installer un vrai calme, un truc stable où on pourrait enfin se focaliser sur le vrai souci qui nous concerne tous.
Oui, oui, oui.
Vous voyez un peu.
En fait, moi je dis, hein, en plein galère, au lieu de s'envoyer des traîtres à tout va, mieux vaut se concentrer sur ce qu'on a en commun et régler le problème en équipe.
Non mais les gars,
c'est ça qu'on doit faire.
Vous avez vraiment raison. Vous avez raison. On a sérieusement merdé.
On a tout perdu. Non, c'est qui?
Pourquoi tu n'as eu qu'à habiter?
Ce genre de langage de complicité fait juste monter la méfiance et les divisions entre nous, finit par reconnaître l'un des personnages. Alors, en période de guerre ou de crise, comme c'est le cas actuellement, pensez-vous qu'il soit possible de concilier la nécessité de dénoncer certaines actions individuelles ou collectives de certains compatriotes, tout en recourant à un langage factuel et inclusif? Si oui, comment y parvenir, Alain-Joseph Lomanja?
Je crois que le langage que nous utilisons reflète un peu ce que nous sommes nous-mêmes et il reflète notre monde, notre éducation et notre manière de voir les rapports avec les autres. Ce langage, il sera conciliant si déjà nous-mêmes nous le sommes par nous-mêmes et si nous croyons que nous avons des valeurs communes que nous partageons avec les autres. Malheureusement, en cas de polarisation extrême d'une société, on a tendance à ne voir que ce qui ne va pas chez les autres. Et parfois, on entre dans une forme de gymnastique intellectuelle difficile à comprendre. Si aujourd'hui, je suis proche, allié de telle personnalité publique, tout celui qui critique cette personnalité-là sera mon ennemi. Si demain, je me brouille avec cette personnalité, j'aimerais que tout le monde se brouille avec lui et qu'on devienne tous son ennemi. Et là, ça devient des contradictions sur contradictions. Ce que je pense, quelque part, c'est qu'il faudra que les leaders politiques et religieux de notre société, je pense aussi à d'autres leaders, puissent prendre conscience de leur responsabilité dans la société, de leur responsabilité face aux masses qui les écoutent, et que chacun puisse adopter un langage conciliant quand c'est nécessaire. Surtout en ce moment où nous voyons les pays déchirés par la guerre, nous ne pouvons pas nous permettre de multiplier les guerres sur le plan de la communication. Non, la paix, ça commence par la parole. Et commençons déjà par cette parole de paix, de conciliation. Je pense que nous pouvons aider les masses à suivre la même dynamique à leur niveau.
Alors, vous dénoncez le rôle des acteurs politiques dans cette polarisation. Alors, quel rôle les autres acteurs comme les médias, les institutions religieuses ou encore le système éducatif peuvent jouer pour inverser justement cette tendance, Alain-Joseph Lomanja?
J'aurais pu prendre chaque acteur et essayer de démontrer son rôle, mais nous n'avons pas du temps pour cela. Je regarde par exemple les médias. Quand vous avez la radio-télévision nationale, qui, du matin au soir, ne présente qu'un point de vue et ne peut pas présenter d'autres points de vue, ne peut pas permettre l'expression d'opinions divergentes. Là, on voit déjà que c'est la radio-télévision nationale n'est pas en train de travailler pour la cohésion sociale. Donc, les médias devraient jouer leur rôle de, je n'ai pas beaucoup cette expression, mais l'église au milieu du village, si vous voulez bien, pour faire bref. Donc, essayer de présenter les différents sons de cloche pour permettre l'émergence d'une opinion publique éclairée et équilibrée. Et aussi, les leaders religieux, je crois que dans notre pays, la religion joue un grand rôle, même dans les débats publics. On voit par exemple un phénomène nouveau, selon qu'on appartient à telle ou telle confession religieuse, telle ou telle église, on est facilement approché par les autorités et nommé dans les fonctions publiques. Alors, ces acteurs-là devaient aussi prendre conscience de leurs responsabilités historiques et se dire, c'est à nous d'apporter la parole de paix, la parole évangélique ou biblique de paix pour apaiser notre société. Voilà ce que chacun devrait faire, mais je n'ai pas l'impression que les gens prennent conscience de l'incidence des propos que l'on tient dans les médias. Moi, j'ai entendu des leaders religieux, par exemple, maudire des pays entiers. Est-ce possible que la parole d'un religieux soit une parole de malédiction alors que les religieux est investi par Dieu pour bénir. Voilà, je crois qu'on n'est pas souvent conscient des responsabilités qui incombent à nos fonctions publiques.
La paix commence par la parole. Ce sont vos propos, hein, Alain-Joseph Lumanja. Merci pour cette intervention et pour votre conclusion. Maître Jean-Luc Mbaranoumoué, lors de l'occupation des villes de Goma et Bukavu par les rebelles du M23, certains internautes ont qualifié les habitants de ces villes de traîtres, reprochant à certains d'avoir accueilli chaleureusement les rebelles. Mais qu'en est-il de ceux qui, confrontés à un fait accompli, n'ont pas eu le choix d'être occupés et se retrouvent malgré eux étiquetés comme traîtres ou complices de la rébellion? Pour vous, comment on peut éviter de tomber dans ce type de généralisation et quel rôle les acteurs politiques, les médias, les citoyens peuvent-ils jouer pour prévenir de tels discours stigmatisants?
Je crois que je vais même aborder dans le même sens que mon co-débatteur, qui dit qu'il a l'impression qu'on ne prend pas l'ampleur, l'incidence de nos propos. Parce que quand les gens sont victimes d'une guerre et que vous estimez qu'ils sont encore complices, c'est-à-dire vous culpabilisez la victime, c'est quand même un acte très dangereux pour la cohésion pacifique dans notre pays. Pour même, ça fragilise même la nation, la consolidation de la nation. Je crois que les gens devaient quand même mettre un peu d'eau dans leur vin avant de tenir certains propos vis-à-vis des victimes de la guerre. Alors pour ce qui est des médias, des acteurs politiques, nous devons développer des discours rassembleurs en lieu et place de procéder à des propos stigmatisants pour croire que dès lors qu'un individu adhère dans une rébellion, c'est toute sa famille, que ce soit biologique ou ethnique, qui est aussi responsable. Comme je l'ai toujours soutenu, les droits dans sa sagesse a toujours insisté sur la responsabilité individuelle. C'est-à-dire c'est la personne qui a trahi qui doit en répondre, et non toute sa famille ou toute sa communauté. Voilà pourquoi moi j'estime que pour mettre fin à ce genre de situations où les gens se sentent frustrés inutilement alors qu'ils sont victimes, il faut vraiment développer des discours qui nous poussent à nous sentir compatriotes, à nous sentir frères au sein d'un même pays, à la place de nous prendre pour des ennemis, alors que nous sommes appelés à vivre ensemble et à cohabiter ensemble.
Merci Maître Jean-Luc Mbaranoumoué. C'est sur cette note que nous concluons cette émission. Ce que nous retenons finalement de cette discussion, c'est que les mots, et en particulier les termes aussi lourds de sens que traître ou complice, ne sont pas à prendre à la légère. Utilisés de manière abusive, ils peuvent stigmatiser et même alimenter des tensions, surtout dans un contexte de guerre, Babel.
Oui, Pauli, l'usage abusif de ce mot peut fracturer les communautés, briser des relations et même conduire à des violences. Il est donc essentiel de faire preuve de prudence et de responsabilité dans le choix de mots, que ce soit dans les discours politiques, les médias ou les conversations quotidiennes.
Mais il ne s'agit pas uniquement d'éviter les mots qui divisent. Il faut aussi promouvoir un langage qui rassemble, qui encourage le dialogue et la compréhension mutuelle. Cela passe par une responsabilisation des leaders politiques, des médias et même des citoyens.
Merci à nos invités, Maître Jean-Luc Mbaranoumoué et Alain-Joseph Lumanja, pour leur disponibilité à prendre part à cet échange et surtout pour la pertinence de leurs interventions. Merci également à Patrick Kiasongwa qui nous a accompagnés du côté de la régie technique. Pour finir, un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité.
C'est Le Ton qui fait la panique est une émission proposée par l'ONG La Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cet épisode en rediffusion sur nos ondes ce samedi à 11h05 et 19h05 ou alors en podcast sur notre site internet www.radioocapi.net et www.abarirdc.net.
Et surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi.